Bonjour, bienvenue sur Radio Méga, dans notre émission Underscore. Si l'attaque des clones est un peu Jedi, chez les paumés ça ressemble davantage à du copitage.
Bonjour Lumène.
Bonjour Cécile.
Et
bonjour au doudou qui est parti se coucher.
Bah oui, mais en tout cas les auditeurs sont toujours présents pour nous écouter lors de nos émissions hebdomadaires de Underscore sur Radio Méga. Nous allons passer effectivement un petit moment ensemble dans l'émission que nous aurons cette semaine. Nous aurons l'attaque des clones. Non, bien sûr que non. Qu'est-ce que tu nous as proposé?
On va parler de clones quand même.
Ben oui.
J'avais ce sujet sous le coude depuis un petit moment. Et j'avais envie de parler des clones de Macintosh. Il y a une époque très très courte, mais qui a changé pas mal de choses pour Apple.
Oui. Et tout de suite, nous allons faire un petit peu d'actu.
Alors, qu'est-ce qu'on a à l'actu?
L'ICANN annule la vente du registre.org. Après avoir repoussé deux fois la vente programmée à Ethos Capital du registre du domaine de premier niveau.org, l'ICANN décide de l'annuler, suivant ainsi la demande de l'EFF et de milliers d'organisations à but non lucratif.
La CNIL lance une enquête sur les droits des mineurs dans l'environnement numérique. La loi française prévoit qu'ils peuvent, à partir de 15 ans, consentir seuls au traitement de ces données personnelles par des services en ligne. Cette consultation a pour but de recueillir l'avis de tous les acteurs concernés.
Le standard Unicode inclut maintenant les symboles de licence Creative Commons. Peut-être bientôt fini les CBIE.
C'est CCBIE. Enfin voilà. C'est les acronymes bizarres. La démoscène finlandaise acceptée sur sa liste nationale des héritages culturels intangibles et donc officiellement reconnue par l'UNESCO.
En Finlande déjà.
Ouais.
Et dans d'autres pays de l'Europe du Nord, oui. En France, c'est pour bientôt.
Peut-être.
Les Pays-Bas passent au logiciel libre par défaut. Les règles de marché seront modifiées pour permettre la publication par le gouvernement sous licence libre.
Debian Facile annonce la sortie de l'ISO facilitante pour Debian Buster. C'est un genre de Xubuntu, mais 100% Debian, qui contient des choses comme un Firefox avec uBlock et HTTPS préconfigurés, les DNS de la FFDN et plein d'autres trucs sympas.
La nouvelle version LTS d'Ubuntu 20.04 Focal Fossa est officiellement disponible en stable. Les versions LTS Long Term Support sont maintenues pendant de nombreuses années, à recommander à ceux qui ne veulent pas mettre trop à niveau trop souvent leur distribution.
Wine sort en version 5.7, avec un meilleur support de Vulkan et un début de support USB.
CURL version 7.70.0 arrive, avec le support de JSON et MQTT.
MQTT. Ouais, MQTT. Le curl, c'est un outil en ligne de commande, mais qui est vachement pratique et qui fait plein de trucs. Le Fairphone 3, préinstallé avec le système d'exploitation libre. Alors, je sais pas comment ça se dit. C'est slash E slash. Alors, c'est I, mais on n'est pas sûr. Faudra qu'on demande à son concepteur. En tout cas, c'est bientôt disponible en ligne à la commande.
Et Lenovo proposera des nouveaux modèles de portable avec Fedora préinstallé. Too little, too late?
Ouais, parce que depuis le temps qu'on attend qu'il supporte Linux.
C'est sûr. Bon.
La Belgique renonce à une application de traçage des malades du Covid-19. Ils vont plutôt payer des gens pour faire le boulot que de toute façon l'appli ne fera pas ou que très partiellement. Alors il y a même une rumeur toute récente là, il semblerait que la France tende à abandonner cette idée aussi d'application Stop Covid, ou en tout cas de pas le faire tout de suite. En tout cas, ça sera pas prêt pour le 11 mai, ça c'est sûr.
Est-ce que tu crois que finalement ils auront écouté la quadrature du net?
Je ne sais pas. Ils ont tendance à pas écouter grand monde, donc on verra bien.
L'amende de 5 milliards de dollars pour Facebook validée par un juge. La justice américaine confirme cette condamnation par la Federal Trade Commission pour défaut de protection des données des utilisateurs. Certains, dont un ex-mentor de Mark Zuckerberg, disent que loin c'est d'être suffisant pour les faire plier et qu'il faudrait au moins 10 fois ce montant.
Le projet Debian élit son leader pour 2020. Il s'agit de Jonathan Carter, qui veut se concentrer sur l'amélioration des conditions de travail de la communauté, faire un meilleur rapport des activités du DPL, hein, de Debian Project Leader, ainsi que de la situation financière de Debian.
Publication du CIL 2020, le socle interministériel de logiciels libres a été mis en ligne pour 2020. Il est consultable en ligne pour, sous forme de catalogue, mais aussi en PDF avec les tableaux indiquant quels logiciels sont recommandés par l'administration.
Et c'est tout pour les news. On se fait une très courte pause et on passe au sujet.
Pour le sujet sur les clones de Power Mac.
Ouais, c'était une très courte pause.
Pen, donc, Pineapple, Apple Pen.
Oui, c'était un remix NES 8 bits.
Ah oui, non,
mais... ouais, c'était marrant, ça parlait d'Apple, donc voilà.
Mais oui, enfin oui, d'une pomme, avec voilà. Un crayon. C'était
un crayon et une pomme.
Ben voilà, c'est bien dans le thème, puisqu'effectivement, c'est un petit peu une copie de ce que on aime appeler les choses paumées.
C'est ça.
Mais là, tu ne t'es pas perdu puisque tu as décidé de nous présenter les clones de Power Mac.
Oui, historiquement, Apple a toujours une relation spéciale avec les copies, les clones et les émulateurs. Déjà, l'Apple II a eu des clones non autorisés. Et puis, l'Atari ST, aussi surnommé Jackintosh, d'après Jack Tramiel, le patron d'Atari, était suffisamment proche du Macintosh, d'après Apple en tout cas, qui a d'ailleurs poursuivi DRI, l'auteur du bureau GEM. C'est d'ailleurs pour ça que les versions suivantes du GEM sur PC, distribuées notamment sur l'Amstrad PC 1512, étaient limitées artificiellement. Les fenêtres n'étaient plus déplaçables, et donc c'était distribué sous le nom de ViewMax. De plus, sur Atari notamment, il existait différentes solutions logicielles ou matériel, comme Magic Sack, pour émuler un Mac, qui nécessitait souvent d'utiliser les ROM originales. Donc,
oui.
Sortir les ROM, les mettre sur une petite carte à brancher sur l'Atari, et puis on pouvait avoir un Atari qui ressemblait à un Mac, quoi.
Oui, d'ailleurs, le truc assez drôle, c'est que en recherchant, parce que forcément le Jackintosh, moi je m'en souviens parce que j'en ai entendu parler, j'ai recherché sur le web le Jackintosh, je ne l'ai pas trouvé tout de suite, à croire que les référencements d'aujourd'hui ont oublié effectivement cette
Oui, oui.
C'était trop.
Ou alors il a fait jouer le droit à l'oubli.
Ah, peut-être. Va savoir.
Voilà.
En tout cas, il est vrai que même à l'époque, un Atari ST était plus puissant qu'un Macintosh. C'était
ouais,
assez rigolo.
C'est pas impossible, ouais.
Et c'était pas le même prix, hein, puisque forcément, un Atari était beaucoup moins cher qu'un Macintosh à l'époque.
Ça, c'est sûr, ouais. Mais la période plus récente des clones de PowerPC a été charnière pour Apple. C'était à la fois une sorte de traversée du désert et un foisonnement technique qui a abouti à OS X, donc en fait l'OS du Mac actuel.
Tout à fait.
Mais qui aurait pu donner plein d'autres choses.
Mm-hmm.
Dans un éditorial de Macworld de 1992, Apple annonça l'intention d'autoriser des clones sous licence du Mac. Mais il a fallu attendre 1995 pour voir les premières machines. Le but était d'augmenter la part de marché de la plateforme Macintosh par rapport au PC, qui était déjà omniprésent. Loin d'avoir l'effet escompté, les fabricants de clones entrèrent plutôt en compétition avec Apple et grignotèrent ses propres parts de marché sur les machines haut de gamme, au lieu d'en prendre au PC. Donc les seuls revenus générés étaient alors la vente de licences de la ROM et de l'OS. Notamment parce qu'ils permettaient d'utiliser des matériels moins chers, comme des claviers PC sur les ports PS2, Même si les Mac eux-mêmes avaient aussi fait la transition vers le bus PCI, ce qui permettait d'utiliser des cartes PC moins chères que les cartes Nubus. Mais en tout cas, ça n'a pas si bien marché que ça.
Non, il faut
Alors ça a quand
savoir
même donné.
qu'historiquement, à cette époque, Steve Jobs a été évincé de chez Apple, hein, à cette
Oui.
époque-là.
Et oui.
Et justement, voilà, c'était une période assez délicate, hein, pour la marque, puisqu'effectivement, on avait l'impression que Apple perdait de son sens, c'est-à-dire le contrôle sur le hardware et sur le logiciel, alors que jusqu'à présent, tout était dans la main des mêmes personnes. Et là, ça faisait une grosse dépréciation de l'image de marque, puisque voilà, presque tout le monde pouvait faire de l'Apple, alors que voilà, jusqu'à présent, c'était vraiment propriétaire.
Alors oui, c'est vrai que le Macintosh était assez fermé, contrairement à l'Apple II par exemple, parce que Wozniak avait prévu des slots d'extension et tout, alors qu'au début les Mac étaient très fermés, on pouvait rien rajouter dedans, parce que Steve a décidé, non, c'est un truc fermé, on rajoute rien dedans. Et puis effectivement, à cette époque-là, ils ont commencé à mettre des slots d'extension et tout plein de choses. Et ça a donné quand même des trucs intéressants. Notamment le CHIRP, alors c'est CHRP pour Common Hardware Reference Platform. Donc il existait déjà un pseudo-standard autour du PowerPC développé par IBM pour permettre d'utiliser des OS comme Windows NT, OS2 ou Solaris. Donc c'était le PREP, PowerPC Reference Platform. Sauf qu'en gros il s'agissait d'un clone de PC IBM avec juste le processeur remplacé par un PowerPC. Mais Apple, bah, il voulait passer en douceur des Mac basés sur l'architecture 68000 vers le PowerPC, donc en conservant ses puces et tout le reste de l'architecture. De plus, PREP n'avait pas vraiment pris, donc ils se sont rapprochés d'IBM pour proposer un nouveau standard, le CHRP, Common Hardware Reference Platform, et ça se prononce chirp en anglais, ça veut dire pépiment, donc c'était avant Twitter. Mais ça parlait déjà de petits oiseaux. Voilà. Et ce standard, bah, il n'a pas eu beaucoup plus d'intérêt de la part des fabricants, à part Apple, bizarrement, et ses clones, même si les Mac n'étaient en fait que partiellement compatibles avec CHRP. Il a cependant introduit notamment l'usage d'open firmware sur les plateformes PowerPC. Et sur cette base, donc, plusieurs designs de cartes mères ont été produits et utilisés par les fabricants de clones. Soit comme plan tout fait, soit comme base pour rajouter des choses, avec des noms très amusants comme Tsunami, Alchemy et Tanzania. Donc c'est très exotique. Et parmi la bonne vingtaine de fabricants de clones, on notait notamment Pios, qui a été plus tard renommé en Metabox, et qui après tentera de faire des compatibles Amiga. Le monde est petit, hein?
Oui, comme quoi, hein.
Et puis il y a eu le multiprocesseur. Si la plupart des clones n'étaient pas plus intéressants que les originaux, qui étaient déjà bien beige et terne, et comme on l'a dit, c'était une période peu propice au design chez Apple parce qu'il n'y avait plus Steve Jobs, certains ont tenté des choses sympas. Par exemple, certains fabricants ont produit des machines avec plusieurs processeurs, jusqu'à 4 chez Daystar Digital. Sachant que les processeurs après qui. Les G3 qui sont arrivés après, ils n'étaient pas prévus pour faire du multiprocesseur. Donc après, ça a un peu disparu parce que ils étaient plus puissants, un seul ça suffisait. Mais quand même, ça a introduit certaines choses. Et même si macOS ne supportait pas nativement le multiprocesseur, bah en fait, ces machines pouvaient quand même être utilisées soit avec d'autres OS, soit des bibliothèques qui permettaient d'utiliser quand même les autres processeurs en passant à travers macOS, en fait, en le contournant. Il y a certaines applications qui ont tiré parti. Et d'ailleurs, Daystar a vendu une licence à Apple pour qu'eux-mêmes puissent fabriquer des machines biprocesseurs. Et puis c'est là aussi que le System Software a changé de nom. Parce que bah avant, le nom de l'OS des Mac, bah, c'était juste System Software, parce que c'était l'OS du Macintosh. Donc il n'y avait pas vraiment de nom, mais puis la boîte de dialogue, c'était à propos de ce Macintosh. Sauf que bah, c'était plus forcément un Macintosh qui faisait tourner l'OS. Donc c'était à propos de cette machine. Et puis du coup, il a fallu donner un nom à l'OS. et on l'a appelé macOS. Et donc les différentes versions de macOS 7 reflètent cette volonté d'utilisation sur d'autres machines. Et puis, bah ça c'était bien, mais macOS à l'époque, ça restait bien monotache quand même. Donc il y a eu de nombreux projets chez Apple pour tenter de remplacer ce truc-là. Notamment Copland, qui proposait pas mal de choses, dont le multitâche. Malheureusement, ça n'a jamais été vraiment terminé, Copland, ça a fini dans des cartons. Mais progressivement, ils ont intégré en fait des fonctions de Copland dans le macOS original. Donc en fait, il a évolué en intégrant des choses qui avaient été développées pour un autre OS qui devait le remplacer et qui finalement l'a pas remplacé. Donc c'est pour ça que les versions 8 et 9 de macOS étaient quand même un peu plus sympas à utiliser. Il y avait un peu plus de multitâches.
Complètement.
Mais voilà, quand ils se sont rendus compte que Copland, ça donnerait rien, eh ben, ils se sont mis à chercher une autre alternative encore et à chercher un OS existant dont ils savaient qu'il marcherait pour faire une base pour remplacer le macOS qui arrivait à la version 9, quoi. Donc c'est là qu'ils ont choisi de racheter Next et Steve Jobs qui venait en bonus en fait. Et là tout s'arrête parce que Steve Jobs en fait quand il revient en 97 avec le Next qui a donné macOS 10, il décide de débrancher la prise sur les clones. Donc il interdit la publication des spécifications des Mac G3 et G4. On en a déjà parlé, hein. C'est ça notamment qui a décidé à porter BIOS sur l'architecture Intel, parce qu'il ne pouvait plus le maintenir sur les derniers Mac. Et donc la période, elle fut assez courte en fait, parce que c'était entre 95 et 97, c'était 2 ans, pendant lesquels il y a quand même eu 75 modèles de compatibles Mac sortis sur le marché.
C'est fou, hein?
Ouais. Et alors, maintenant, on a un héritage un peu différent des clones. C'est notamment le Hackintosh. Parce que de nos jours, même si Apple est passé au processeur Intel, et des rumeurs affirment, j'ai contrepété, des rumeurs affirment qu'ils songeraient à passer à l'architecture ARM, qu'ils utilisent déjà sur les tablettes et les téléphones, hein. Certains Macounais continuent de vouloir utiliser l'OS du Mac sur autre chose qu'un Mac.
Alors, ah oui,
d'accord, un Mac maintenant c'est un PC en fait. C'est
oui,
un PC
parce que
un peu spécial.
C'est la même architecture, bien sûr.
Oui, c'est un PC avec juste un composant qui dit coucou, je suis un Mac. Et donc en fait, macOS il vérifie qu'il y a bien ce truc là, mais on peut arriver à patcher macOS. Et donc il y a des gens qui essayent d'installer macOS soit sur des vraies machines, des vrais PC, un petit peu bidouillé ou en patchant l'OS, soit carrément dans des émulateurs comme VirtualBox. Et donc on appelle ça des Hackintosh, parce qu'il faut quand même faire un gros hack pour convaincre macOS que ce qui est un PC, bah, c'est aussi un Mac. Voilà, donc ça, bah, ça a été une époque un petit peu bizarre, parce qu'on avait des machines bien beige et tout, bien lisses, et on savait pas trop ce que ça donnerait, et au final, bah, ça a donné macOS 10, parce qu'en fait, vu que cette branche a pas marché, bah, ils ont été obligés de passer à autre chose. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, bah, je vous mettrai sur notre blog AAA.fr quelques liens, donc notamment une vidéo sur le Power Macintosh 9500, qui explique cette machine, mais notamment les clones aussi. Et puis il y a une page Wikipédia, et puis il y a la liste complète des clones de Mac, et moi j'en ai un, c'est le IC4-200P, qui est International Computing, et ben voilà, c'est un des clones de Mac.
On fait une petite pause spécifique aux clones de Mac?
Oui, ben justement, c'est une chanson qui est une parodie d'une chanson existante qui parle justement des clones de Mac.
Ouais, à tout de suite.
Isn't it strange? We used to own the whole Mac market, what would Scully say? If only he knew that we were licensing as fast as we can, flying off to Taiwan and Japan, showing them how to build a Mac copy, then we sell them all our hardware and our ROMs and System 7. And I say, I think we're a clone now. There's always Michael Dell just a hanging around. I think we're a clone now. The crash of Intel stock is the only sound. Look at the way PowerPC keeps getting faster. What can Intel say? They're stuck with Cisc, and so we're licensing as fast as we can, trying to obey that Spindler plan, meeting with OEMs into the night, and then we whisper words like Gates and Grove, and they take out their wallet, and I say, I think we're a clone now. The manufacturer is from out of town. I think we're a clone now, 'cause you can make a man with $10 down. I think we're a clone now. The screens from Microsoft are the only sound. I think we're a clone now. And Intel's benchmark team always wears a frown.
Alors, c'était donc I Think We're a Clone Now. Donc, c'est en fait une parodie.
Dans le même thème, dans cette les musiques. Histoire, en fait. Oui, bien sûr. Moi, je me souviens de cette musique et elle faisait partie aussi d'un pack de parodies avec Winsong 95. Je vous propose de rechercher Winsong 95 sur YouTube. C'est assez drôle. C'est vieux, mais c'est drôle.
On passe à l'agenda ?
Rappelons que l'agenda est celui de la semaine passée lors des rediffusions le samedi.
L'agenda.
Et donc on a Projecteur, comment la restauration artisanale s'adapte au contexte actuel avec le numérique. La restauration et les métiers de bouche ont été touchés de plein fouet et de manière subite au moment de la mise en confinement du pays. Passé ce moment de stupeur, il a fallu gérer en urgence la question des salariés, des stocks, et certains se sont dit qu'il fallait coûte que coûte reprendre une activité. Donc ça, c'est en fait le Moulin Digital qui organise ça pour découvrir comment certains arrivent à reprendre une activité. Donc c'est sur inscription, ça se passe en ligne bien sûr, le mercredi 6 mai de 9h30 à 10h15.
Alors, il y a la fresque du climat, atelier connecté, animé par l'asso Catalyse, proposé par le Val, atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique, basé sur l'intelligence collective, extrêmement pédagogique, initiation en 3 heures, adressée aussi bien aux novices qu'aux connaisseurs. L'objectif est de comprendre les enjeux du climat et adapter son mode de vie en toute conscience. Spécialement spécial confinement, ceci est une version en ligne de la fresque du climat via une application en visioconférence murale, matériel nécessaire, une bonne connexion internet, une souris, un pavé tactile à manier et un micro. C'est gratuit, inscription obligatoire en ligne le 6 mai de 16h à 19h. Donc voilà, c'est à l'atelier de Val.
C'est le Valence Atelier Libre. Et on a aussi la fête confinée, Val masqué numéro 2. Donc c'est aussi proposé par le Val. Donc je lis donc le texte. Bientôt le déconfinement partiel, youpi! Mais les rassemblements festifs vont encore être interdits hein, pour un bon moment. Sniff. Alors on a eu l'idée, pendant un apéro virtuel, pourquoi pas faire une grosse fête virtuelle. Oui, on sait bien que c'est mieux de se voir en vrai, le contact humain, tout ça, mais bon, c'est mieux que rien. Allez, on se motive, on prépare sa boisson favorite et un masque de balle, voire le tuto dans le programme. Et puis on s'occupe du reste. Donc il y aura un DJ live pour vous trémousser dans votre cuisine. et vous pourrez voir une centaine d'autres personnes en faire autant devant leur webcam. Il y aura un chat et des salles privées pour discuter ou autres, et plein d'idées surprises, comme par exemple un bar à poèmes, un photomaton ou un stand de compliments. Donc ça, c'est sur inscription, en ligne, le samedi 9 mai de 20h à 23h. Ça peut être marrant.
Bien. Bah oui, ça serait bien de participer. Et en ces temps de confinement, on a du lien et des liens. Oui, vous en avez marre d'entendre parler de l'épidémie partout en ligne. Une extension Firefox remplacera sur les pages les mots comme Corona par des mots qui commencent par que.
Par C. Voilà, c'est pas Corona, ça sera autre chose. Alors je sais pas, chaton par exemple, pourquoi pas. La NASA vous propose de découvrir la photo prise par le télescope spatial Hubble le jour de votre anniversaire.
Il y a sûrement aussi plein de vidéoconférences que vous n'avez toujours pas pu regarder. Justement, les vidéos de la PIConf FR 2019, non, ce n'est pas une boisson, mais une conf sur Python, sont arrivées.
5 minutes devant vous, retrouvez toutes les conférences éclair, donc les Lightning Talks de Sudweb, qui est une autre conférence sur le web cette fois-ci.
Et il y a enfin un nouveau podcast Amiga Impact à écouter.
Ouais. Et l'éducation nationale propose enfin des services libres pour les profs et les élèves. C'est sur apps.education.fr. Bien entendu, on vous mettra tous les liens sur AAA.fr.
Bien sûr. Et le collectif Santé Naton veut défendre nos données de santé et favoriser l'utilisation de logiciels libres dans ce milieu.
Et on vous a même trouvé une liste des bandes dessinées gratuites à lire en ligne pendant le confinement. Si avec ça vous vous ennuyez,
vous pouvez toujours aussi réécouter nos podcasts sur AAA.fr. Hein.
Ouais, il y en a quelques-uns.
On se prend ta boule. Allez, astrologie. Il y a le générique, je crois.
Oui, il y a le générique.
Allez, on écoute ça.
Astrologique.
Oui.
Hot school. Je suis toujours jeune. J'ai mon aurique.
Demo Maker. La reconnaissance finlandaise, ça réchauffe. Enfin, si on veut.
Devop, j'ai fait le diff ici. T'as fait le difficile ? Non, j'ai fait le diff ici.
Amigaïste, moi je te le dis, cet ordinateur-là, c'est de la balle.
Musicien, tu as mis le pied dans le flac.
Électronicien, James Dean, il en avait une plus grosse que James Mini Dean.
Eh ouais, bien... D'accord. C'est encore très drôle. Oh oui, bah, amis auditeurs, on se dit à la semaine prochaine. Mais oui, et la semaine prochaine, on retrouve notre ami Roudoudou qui sera debout.
Ouais, qui sera réveillé. Je ne sais pas si on peut envoyer du café en visio, mais on fera ce qu'il faut.
Ça marche. Allez, à la semaine prochaine. Salut.
À la semaine prochaine.
Bye bye.